WTO! Kids promise! WTO!
Le grain de sable. Pensée globale. Une émission proposée par l'association Atacrone. Agir local. Le grain de sable.
Bonsoir et bienvenue dans l'émission Datacrone. Ce soir, on s'intéresse à un rêve fou, l'autogestion ouvrière. En effet, de plus en plus de travailleurs, dans cette industrie qu'on croyait pieds et poings liés au productivisme, se lancent dans cette aventure. Elle prend même forme à 25 km de Marseille, dans l'immense usine de la Française d'alimentation et de boissons, Fralib, à Gemnos. Les salariés de cette fabrique d'infusion, dont l'activité pourtant bénéficiaire a été délocalisée en 2010 en Pologne par son propriétaire Unilever, sont sur le point d'en reprendre l'activité à leur compte. Au commencement, il y a eu une lutte. Les salariés de Fralib ont arraché les locaux et les machines au géant Unilever, qui a fini par les céder pour 1 euro à la communauté urbaine de Marseille. Au forceps, ils doivent aujourd'hui recréer la filière que s'est arrogée Unilever en 1972 en rachetant l'entreprise centenaire. L'émission d'aujourd'hui ne sera pas en direct puisque nous n'avons personne dans le studio, mais nous allons vous rediffuser une émission de Attaque Marseille qui a été diffusée le 13 novembre 2014 sur Radio Galère et qui recevait Olivier, un Fralib, qui nous explique son expérience de la lutte et surtout l'avenir de la SCOP. Donc je vous souhaite une bonne écoute et vous dis à dans 15 jours.
Bonjour les collègues, vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, les deuxièmes jeudis de chaque mois de 15h à 15h30 sur Radio Galère. La Gueule Ouverte, une émission qui fait monter la yoli, qui boulègue les consciences et qui dit stop aux connos.
Eh ben, bonjour aux auditeurs de Radio Galère. Vous êtes bien en 2014 et vous écoutez l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, La Gueule Ouverte. Et aujourd'hui, avec Mathieu, nous avons invité une camarade de Fralib, nouvellement SCOP TI, et nous allons passer un moment avec Olivier, qui a décidé de vivre et travailler au pays en faisant plier la multinationale Unilever. Donc, nous sommes avec Olivier Le Berquier, qui est responsable CGT de l'usine ex-Fralib. Bonjour, camarade. Bienvenue à toi sur les ondes de Radio Galère.
Bonjour. Merci de votre invitation.
Ouais, et merci à toi d'y avoir répondu. Alors, bonjour à tous nos auditeurs. Hein. Salut Hervé. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est parce que j'ai fait mon petit travail de reporter. Hein. On va commencer par faire un petit rappel historique pour les auditeurs qui l'ignoreraient sur l'aventure Fralib. Donc, en septembre 2009, la multinationale Unilever, propriétaire de la marque de thé Éléphant, annonçait la fermeture de l'usine Fralib à Gemnos et le licenciement de 180 salariés pour aller fabriquer le même thé en Pologne. À ce moment-là a commencé la bataille pour sauver l'usine et préserver les emplois en France. Et le 4 juillet dernier, vous avez fêté, donc Olivier et puis avec toute la petite bande qui est restée, vous avez fêté la victoire dans l'usine de Gemnos que les salariés vont reprendre en SCOP. Après 1336 jours de lutte, soit près de 4 ans de résistance tout de même. Alors ma première question, j'ai envie de revenir sur cette aventure humaine incroyable. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment vous avez décidé de rentrer en lutte ?
Ah, pourquoi et comment ? C'est une grande question. Je pense que dès le départ, nous on fait partie d'une entreprise où le syndicat est très actif à l'annonce de la fermeture. Pour donner une idée, sur ces 182 salariés, on avait 97 syndiqués à la CGT, avec une activité du syndicat, notamment sur l'activité au comité d'entreprise, très orientée sur la compréhension économique de la santé financière de l'entreprise, donc avec nos experts qui régulièrement analysaient les comptes de l'entreprise, et donc nous donner les éléments financiers de l'entreprise. Donc dès le départ, faut rappeler que septembre 2010, ils annoncent la fermeture, mais au printemps 2010, on avait déjà engagé un conflit sur les conditions de travail et les salaires, avec d'ailleurs des intérimaires qui avaient été embauchés à cette période-là, parce que on avait fait la démonstration économique que c'était justifié. Donc on avait une bonne compréhension de et les salariés une bonne compréhension de la santé financière de l'entreprise. Donc quand ils annoncent le projet de fermeture, d'ailleurs jamais Unilever s'est hasardé de dire que l'entreprise n'était pas rentable. Simplement, bah, ils justifiaient la fermeture par 4 usines en Europe, une en Angleterre, une en Belgique, une en Pologne et une en France, et bah, qu'avec 3 usines, ils pouvaient alimenter l'ensemble du marché de l'Europe de l'Ouest. Donc ils ont supprimé une et préféraient supprimer celle qui, selon eux, coûtait le plus cher et était la moins productive. Là aussi, on a fait la démonstration que c'était faux. Donc sur la rentabilité financière, on savait que l'entreprise était rentable, et on a fait une démonstration très rapidement économique avec nos experts que, avec Unilever, il faut savoir que sur notre site, on a produit jusqu'à 6000 tonnes, traité jusqu'à 6000 tonnes de produits. 4200 tonnes conditionnées complètement et 1800 tonnes en vrac. Sur les 5 dernières années de fabrication avec Unilever, ils nous avaient cloisonné à 3000 tonnes. Eh bien, on a fait une démonstration économique que, à partir de 1000 tonnes traitées, l'ensemble des comptes de l'entreprise étaient à l'équilibre. C'est-à-dire, 1000 tonnes travaillées, tout était payé, les salaires, cotisations sociales et cotisations patronales incluses, l'énergie, location des bâtiments et des terrains puisqu'ils n'en étaient pas propriétaires. Donc la totalité des coûts était amortie au bout de 1000 tonnes. Et les deux autres 1000 tonnes, c'était pour enrichir les actionnaires. Donc 4 mois de travail pour amortir tous les coûts, 8 mois de travail pour enrichir des actionnaires. Donc nous, on a fait le choix dès le départ de résister et de maintenir l'activité industrielle et les emplois sur le site.
D'accord. Donc la bataille, elle s'est menée aussi bien au niveau social, donc avec l'occupation du site, avec des manifestations, avec un appel au boycott auprès des consommateurs, et puis aussi au niveau juridique, avec donc une démarche auprès des tribunaux, une démarche qui s'est avérée plusieurs fois en faveur des salariés. Hein, alors comment vous avez pu coordonner, organiser cette bataille, et puis quel genre de pression vous avez dû à quelle pression vous avez dû faire face?
D'abord, l'organisation, surtout autour de notre organisation syndicale, donc à tous les niveaux, hein, de notre fédération à notre union locale et union départementale, et le syndicat, évidemment, qui a toujours été le maître des décisions prises dans la lutte. Donc un travail collectif régulièrement sur la situation, aidé par nos experts économiques, je l'ai déjà dit, sur la santé économique d'entreprise, mais aussi sur le projet, puisqu'on a construit avec eux, et notre cabinet juridique, hein, Maître Guénin d'Agora Juris à Bagnolet, où là, il a donné énormément sur et contribué énormément aux victoires juridiques qu'on a pu obtenir. Et d'ailleurs, sur la partie juridique, faut noter qu'on est dans cette période-là, avant l'ANI. Donc heureusement que, entre guillemets, ça s'est passé avant l'ANI, parce que si l'ANI avait été mis en vigueur en 2010, eh bien jamais on aurait pu remporter ces victoires juridiques et imposer à Unilever de reculer systématiquement la possibilité de fermer l'usine et donc de nous permettre aujourd'hui de redémarrer l'activité. Donc c'est tout un travail collectif avec nos structures, nos experts et notre avocat qui a permis de systématiquement faire annuler les différentes procédures initiées par Unilever. Et puis il faut bien l'avouer, ils nous ont bien aidés de ce côté-là, parce que faut dire que sur les arguments et la manière dont ils ont géré cette partie juridique, par moment on tombait vraiment des nues, parce que c'était entre guillemets tellement gros que ça paraissait évident que les procédures devaient être annulées.
Une mauvaise foi criante, quoi, vraiment.
Ouais, par exemple, la toute première annulée par la Cour d'appel d'Aix, enfin la première annulée d'entrée, la deuxième annulée par Cour d'appel d'Aix, où d'ailleurs le président de la Cour d'appel en pleine audience fait venir le directeur du site pour qu'il s'explique pourquoi, comment il peut expliquer tranquillement qu'il va fermer l'usine à Gémenos et qu'il propose un poste à chaque salarié en Pologne pour 6 000 euros, mais 6 000 euros annuels. Donc voilà, évidemment, rien que là, on avait compris le jour de l'audience que le la décision du juge allait être en notre faveur. Encore pire, quand ils arrivent à la troisième et à la quatrième procédure, alors la dernière, qui aurait forcément été annulée. Bon, il y a eu un accord, donc derrière, il s'applique, mais parce qu'il y a eu un accord de fin de conflit. Mais la quatrième procédure, on part d'un effectif de 182. À partir de la troisième, comme ils ont signé des transactions complètement irrégulières et complètement jugées frauduleuses par la justice, ils reprennent une troisième procédure à 103 salariés et ils font encore pire sur la quatrième puisqu'ils avaient, elle avait été annulée. Ils reprennent que sur les 14 salariés protégés qui n'avaient pas encore été licenciés, alors que tous les licenciements avaient été annulés. Donc, il n'y avait aucune chance que cette procédure puisse passer.
Alors, moi, ce que je retiens de ce que tu es en train de dire quand même, c'est qu'apparemment, de s'organiser collectivement et de mener des luttes, ça paye. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus fort quand on s'organise en groupe plutôt que quand on essaie de résister individuellement. Donc ça m'amène à ma première question. C'est que je suppose que c'était ça a été très important pour pouvoir tenir aussi longtemps, d'avoir été capable de créer des liens de solidarité, de fraternité très forts et qu'on dû se nouer évidemment entre vous tous, mais également avec des personnes et organisations extérieures, que ce soit des avocats ou autres. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces solidarités qui sont créées dans la lutte?
Oui, parce que bon là j'ai parlé les structures et avocats, mais aussi énormément de soutien au niveau des associations, au niveau des collectifs, que ce soit les collectifs retraités, CGT, et même en dehors, les autres organisations syndicales ont un énorme soutien. On avait organisé en juin de 2013 un carrefour des luttes à l'usine qui s'est venu de toute la France. Donc même en dehors des frontières, on a aussi eu des soutiens. On a organisé en février 2013 une rencontre internationale sur le site avec l'ASPAS de Marseille avec 12 nationalités représentées. Donc ça a dépensé la solidarité, a dépassé les frontières. Et donc dans son plan de travail sur l'année 2013 et 2014 mis en place une campagne, relayé la campagne du boycott Lipton. Donc voilà, tout ça a contribué forcément à la fois à nous permettre de mettre la pression sur l'Union Verte et enfin, au bout de 3 ans et demi, commencer des négociations sur la reprise de l'activité et obtenir un accord. Mais aussi, ça continue aujourd'hui dans le nouveau combat qu'on a et qui nous permet de démarrer l'activité, d'avoir des points d'ancrage avec l'ensemble de ces associations-là et des collectivités qui nous soutiennent pour nous projeter dans l'avenir avec des points d'ancrage importants qui vont nous servir pour la future marque, moi j'en parlerai tout à l'heure, et ce qu'on va mettre en place au niveau de notre projet.
D'accord. Donc là, vous avez signé donc avant l'été un accord de fin de conflit avec Unilever, de sortie de conflit. Est-ce que comme ça amorce la deuxième partie? Tu peux nous dire un petit peu très vite qu'est-ce que c'est que les conditions de cet accord et puis un peu comment se répartit les finances qui sont contenues dans l'accord. Quoi.
Oui, c'est volontiers parce qu'en plus ça permet de remettre les choses au clair par rapport à ça, comme ça que tout le monde puisse avoir la vision réelle de ce qu'il y avait dans cet accord, dans ce qu'il y a dans cet accord. Donc Unilever a communiqué d'ailleurs sur ce sens-là, de dire accord de fin de conflit, ça représente autour de 20 millions d'euros l'accord de fin de conflit. On conteste pas le chiffre de 20 millions d'euros, hein, c'est d'ailleurs on l'aurait fait si ça avait été le cas, donc on le conteste pas. Par contre, il est nécessaire d'expliquer sa constitution. Donc 4 ans de lutte, donc avec 76 salariés qui ont lutté jusqu'au bout pour obtenir les conditions financières qui nous ont permis de sortir du conflit. Une grande partie, donc un peu plus de la moitié, autour de 10 millions et demi, c'est tous les arriérés d'Unilever par rapport au salaire, aux retenues de salaire qu'il y a pu y avoir, aux cotisations sociales qu'ils avaient arrêté de payer puisqu'ils considéraient les salariés licenciés, etc., qu'ils ont dû régulariser, et les indemnités, puisqu'on n'a pas oublié cette partie-là, et ils avaient signé des transactions individuelles avec certains salariés qui ont été jugés illégales, et donc certains sont partis avec des sommes importantes. Il n'était pas question que les copains qui avaient, l'ensemble de ceux qui avaient lutté jusqu'au bout, on épargne Unilever de cette partie-là. Donc tout ça, toute cette enveloppe-là, pour les 76, ça représente un peu plus de 10 millions d'euros. Ensuite, il y a le chiffrage de la valeur de l'ensemble de l'équipement, qui est chiffré autour de 7 millions. Et le reste, donc 2,850 millions exactement, qui vient, alors avec différents arguments, formation, remise à niveau de l'équipement, etc. Mais 2,850 millions qui viennent en capital pour la SCOP. Donc ce qui vient pour la SCOP, c'est 2,850 millions. J'aime pas trop le terme, mais c'est celui qu'on a employé quand on a signé l'accord de fin de conflit. On a solder le conflit, on va dire. Donc avec les 76, régler cette partie-là qui concernait les 76 salariés de manière individuelle. Donc on l'a tout le mois de juin et début juillet consacré à faire ça. En même temps, on commençait déjà la mise en route de la SCOP. Hein. Et on a donc réglé toutes les parties individuelles. Donc ça, ça a été réglé début juillet. Et ensuite, on a chaque salarié, les 76, ont eu la possibilité de se positionner pour aller dans le nouveau combat qui nous amène, pour aller dans la construction de la SCOP. Sur les 76, 58 ont fait le choix de rentrer comme coopérateurs dans l'entreprise. Et dans la future SCOP, dans les 58 coopérateurs, 51 avec vocation d'y être salarié à un moment donné. Sur les 51, on est encore les salariés comme moi, salariés protégés que Unilever a jamais pu nous licencier puisque l'inspecteur du travail a toujours refusé puisque les conditions étaient complètement irrégulières, donc ils pouvaient pas l'accepter. Donc à deux reprises, ça a été refusé. On est encore dans cette procédure-là. Alors maintenant, c'est l'inspecteur du travail du Val-de-Marne qui doit statuer là-dessus. On pense que d'ici la fin de l'année, puisque maintenant il y a eu un accord de fin de conflit, donc il y aura pas forcément d'obstacle particulier, mais jusqu'à la fin de l'année, on sera encore salarié d'Unilever. Ensuite, on rentrera dans un congé de reclassement de 15 mois. Donc tout ça, ça nous permet d'œuvrer dans la SCOP sans que nos salaires soient un poids à supporter par la SCOP. Et donc, pour donner l'explication des 76, 58, 51, c'est tout simple. Hein, avant que la question soit posée, comme ça j'y réponds. Quand on rentre dans un conflit en septembre 2010 et qu'on en sort en mai 2014, 4 ans se sont écoulés. Certains et certaines de nos camarades avaient 56 ans au début du conflit, ils en ont pas loin de 60 aujourd'hui. Donc voilà, ils aspirent à autre chose de leur vie aujourd'hui. Donc ils ont mené le combat jusqu'au bout et on les remerciera jamais assez pour l'avoir mené parce que c'était un acte important de rester à 76. C'est quand même énorme, hein, 182 au départ, 76 jusqu'au bout. Au bout de 4 ans, presque la moitié des salariés qui sont en lutte. Je pense que certains, ils mesurent pas, même y compris dans nos troupes à nous, l'importance d'avoir tenu à aussi nombreux en pourcentage par rapport à l'effectif de départ. Donc ça nous a permis de pouvoir signer cet accord de fin de conflit. Aujourd'hui, ils aspirent à autre chose. Et certains, même y compris dans ceux qui sont en fin de carrière, pour parler des 58 à 51 qui seront futurs salariés, ont souhaité être coopérateurs quand même avec nous. Ils seront pas salariés parce qu'ils sont sur d'autres aspirations, soit fin de carrière ou soit on fait un autre choix de professionnel, hein, on en a quelques-uns comme ça. Et donc voilà, donc on repartira à 58 coopérateurs et 51 futurs salariés minimum, parce qu'on va pas s'interdire d'embaucher dès qu'on va pouvoir le faire.
Bien sûr.
Vous interdisez rien. Alors une dernière question rapidement, un peu plus personnelle là pour le coup, une aventure pareille évidemment, comme tu l'as dit, ça change quand même un homme. Alors est-ce que tu as changé?
Ah, ça c'est ceux qui me connaissent bien qui pourraient le dire. J'ai changé physiquement parce que physiquement j'ai pris quelques kilos parce que ça fait pas maigrir tout ça les barbecues et surtout le manque d'activité physique parce que moi j'ai toujours fait beaucoup de sport et là faut bien dire que pendant les 4 ans de lutte j'ai pas trouvé le temps d'en faire beaucoup donc j'essaye de m'y remettre avec un petit peu de mal mais donc physiquement bien sûr qu'on ça a changé. Après oui. C'est forcément source de richesse. On a vécu tous les uns les autres, mais moi personnellement, parce que la question m'est posée à moi, rencontrer des gens que jamais on aurait rencontrés s'il n'y avait pas eu cette lutte. Que ça soit au niveau politique, tout le monde le sait, tous les gens qu'on a pu rencontrer, mais culturel et aussi au niveau professionnel, parce que j'ai pu me rendre au Vietnam, par exemple, j'ai rencontré là-bas le président du Thé national du Vietnam. Quelqu'un qui a un doctorat dans les plantes, il y a la barrière de la langue, mais avec les interprètes, on aurait pu discuter des heures et des heures. C'est des gens vraiment très intéressants à rencontrer. Ça, j'aurais jamais rencontré ce genre de personnes s'il n'y avait pas eu la lutte, s'il n'y avait pas eu le projet de construction. Et on continue aujourd'hui à rencontrer plein de gens que jamais on aurait rencontré. Donc un enrichissement collectif et personnel important.
Bon. Bon, donc voilà pour cette première partie d'émission. En tout cas, on reste encore avec Olivier pour la deuxième partie, pour la plus parler du devenir de la SCOP. Mais on va s'écouter avant un petit titre de HK et les déserteurs. Bon, donc HK, c'est un groupe qui a toujours soutenu les Fralib et avec qui d'ailleurs les Fralib ont enregistré un titre l'année dernière qui s'appelle Los Fralibos, qu'on avait passé sur l'antenne quand Yves était venu. La chanson qu'on va passer, là, c'est une chanson qui s'appelle « En groupe, en ligue, en procession ». C'est une chanson de Jean Ferrat, donc que les HK ont reprise. On la dédie, bien sûr, aux Fralib pour leur souhaiter bonne chance. On la dédie aussi à ceux de la SNCM. On la dédie au Moulin Morel. Et puis, on se retrouve en deuxième partie.
En bannière, en slip, en veston.
Il est temps que je le confesse. À pied, à cheval et en voiture, avec des gros, des petits, des durs. Je suis de ceux qui manifestent avec leur gueule de travers, leur fin de mois qui sonne clair. Les âmes trouvent tous les vices avec leur teint calamiteux, leur fin de mois qui sonne creux. D'autres trouvent que c'est justice. Je suis de ceux que l'on fait taire au nom des libertés dans l'air. Une sorte d'amoraliste, le fossoyeur de nos affaires, le déroulé de l'arrière. Le plus complet des défaitistes, l'empêcheur de tuer en rond, perdant avec satisfaction. 20 ans de guerre colonialiste, la petite voix qui dit non dès qu'on lui pose une question. Quand elle vient d'un parachutiste, en groupe, en ligue, en procession, depuis 200 générations. Si j'ai souvent commis des fautes, qu'on me donne tort ou raison, de grèves en révolution. Je n'ai fait que penser aux autres, pareil à tous ces compagnons qui de charonnent à la nation. En ont vu défiler paroles, des pèlerines et des bâtons, sans jamais rater l'occasion casser la gueule. En groupe, en ligue, en procession, et puis tout seul à l'occasion. J'en ferai la preuve par quatre, s'il m'arrive, Marie-Jésus, d'en avoir vraiment plein le cul. Je continuerai de me battre, on peut me dire sans rémission, qu'en groupe, en ligue, en procession, on a l'intelligence bête. Je n'ai qu'une consolation, c'est qu'on peut être seul et con, et que dans ce cas on le reste. En coupant les grandes possessions,
nous voilà de retour pour la deuxième partie de La Gueule Ouverte, qui, je rappelle, pour les auditeurs qui nous rejoindraient seulement maintenant, qui donne la parole aujourd'hui à Olivier, donc, qui est responsable CGT de la SCOP TI, anciennement Fralib, localisé à Gemnos, qui, après 4 années de lutte acharnée, une victoire retentissante contre la multinationale Unilever, vont pouvoir commencer enfin une nouvelle aventure. Pas vrai, Mathieu ?
Oui, tout à fait, Hervé. Alors, je rappelle ce que tu nous as dit dans la première partie. Donc, vous gagnez 20 millions. Vous avez 2 800 000 euros à peu près pour faire redémarrer la SCOP, donc, qui est aujourd'hui créée. Les machines sont là. Vous avez des fonds pour la remise en marche du matériel, pour investir dans de nouvelles technologies. Les fonds de roulement de la SCOP, le recrutement de cadres et notamment un directeur commercial, des fonds également pour la formation des salariés. Vous avez également l'ambition de créer une marque. J'imagine qu'il doit y avoir un sacré enthousiasme chez vous en ce moment, car en gros, tout reste à faire et discuter. Donc en premier lieu, j'imagine quoi produire et comment.
Bah oui, là, c'est toutes les réflexions, tous les débats qu'on a en ce moment. Donc, on est en passe de conclure là sur la partie choix, sur la partie direction commerciale. Donc, on a plusieurs pistes et aujourd'hui encore, on a débattu entre nous et je pense qu'avant la fin de la semaine, début de l'autre, on aura tranché cette question-là. Donc, ça pourra partir au moins sur la partie qui concernera les marques distributeurs et le travail avec la grande distribution. Par contre, sur notre propre marque, là, on est encore en discussion et puisque tout le monde se rappelle que on avait comme revendication de récupérer la marque éléphant et qu'on considère toujours que c'était légitime et qu'on va être bienveillant à regarder ce qu'ils vont en faire parce que pour nous on continue à penser que ils vont à terme la laisser mourir et passer tous les produits sous la marque Lipton, donc on sera toujours vigilant à faire en sorte que le jour où ça arrive on soit là pour pouvoir faire en sorte que l'éléphant meure pas. Mais bon, aujourd'hui il faut redémarrer avec notre propre marque, donc on a des discussions en cours, on s'est attaché les services de d'une équipe de jeunes qui viendront de la région parisienne dans les prochains jours, qui travailleront avec nous pour réfléchir sur le nom de la marque, son positionnement. Bon, le circuit qu'on veut prendre, ça on le connaît, tout le monde le sait. On veut relancer notamment sur la partie infusion toutes les plantes aromatiques et médicinales qui ont été où la filière a été très mise à mal dans les dernières décennies, les deux dernières décennies. L'exemple c'est simple, hein, c'est on prend toujours le tilleul parce que c'est celui qui nous marque le, mais c'est valable pour toutes les autres plantes. Quand jusqu'en dans les années 2000, on s'approvisionnait en tilleul dans la région, la cueillette annuelle de tilleul en France c'était autour de 400 tonnes. Région PACA, Rhône-Alpes et Sud-Ouest principalement. Aujourd'hui, c'est plus que 10 à 15 tonnes. Encore hier, on était dans la Drôme chez un partenaire potentiel qui travaille avec des producteurs de plantes aromatiques médicinales bio. Et donc, nous expliquer, voilà, aujourd'hui, le tilleul est toujours là, mais pour les avoir en quantité, il faut relancer la machine. Donc, ce qu'ont fait les grands industriels, c'est qu'ils ont depuis des années, mais Unilever comme les autres, hein. Ils sont pas tout seuls. Aujourd'hui, le tilleul, il vient d'Amérique latine ou d'Europe de l'Est. Il arrive par bateau au port d'Hambourg. Il traverse l'Allemagne 600 km pour se faire travailler, couper chez un copacker. De là, il repart à Katowice en Pologne pour être conditionné. Et de Katowice, il revient en France pour être vendu aux consommateurs français puisque le tilleul éléphant et la marque éléphant est vendue exclusivement en France. Voilà le parcours que fait le tilleul. Donc nous, notre projet sur notre propre marque, c'est de bien sûr pas faire la même chose, d'aller chercher là où ça se trouve et notamment en favorisant de travailler avec les producteurs locaux, mais plus généralement en France, parce que le tilleul ça peut pousser et plein d'autres plantes peuvent pousser dans beaucoup de régions en France, donc de travailler avec les producteurs locaux, les faire venir dans notre usine, les travailler, les conditionner et les mettre à disposition, de mettre à disposition des consommateurs un produit de qualité et venu de notre production française.
D'accord. Votre lutte est devenue un symbole de la résistance aux délocalisations, pouvoir des grands groupes industriels, financiers. Donc, vous avez démontré que la lutte, ça payait, qu'une victoire est toujours possible. Toute cette expérience accumulée, est-ce que vous avez réfléchi là-dessus? Comment pouvoir en faire profiter les autres Voilà, pensez.
Bah, je dirais que là, la réponse, ça s'est déjà trouvé toute seule, à l'issue de notre plein gré. C'est-à-dire que déjà, des exemples sont, c'est peut-être un petit peu, présomptueux de dire, on prend exemple sur nous, mais bon, si c'est le cas, tant mieux. Par exemple, les copains de Carcassonne, les ex-Pilpa, étaient rentrés en conflit, un an après nous, en juillet 2011. On leur a annoncé le projet de fermeture de leur site à Carcassonne de glace. Où ils travaillaient pour la grande distribution, ils faisaient des glaces distributeurs et la glace Pilpa. Ouais. Et donc, ils ont lutté comme nous, dès le départ, en prenant exemple de la lutte qu'on menait et du projet alternatif qu'on portait de réappropriation de l'outil industriel. Ils l'ont obtenu, alors avec des conditions différentes des nôtres, parce que chaque combat est différent, avec l'interdiction de travailler sur les marques distributeurs, par exemple pour eux, donc ils les contraignent sur un certain nombre, mais la possibilité de travailler sur des glaces artisanales. Et donc, ils ont signé un accord de fin de conflit un an avant nous, en juillet 2013, et donc ils ont redémarré leur activité en scope pour des glaces artisanales avec une glace la scope s'appelle la Fabrique du Sud, la glace s'appelle la Belle Aude, la marque de la glace s'appelle la Belle Aude. Ils s'apprêtent à faire des bûches exceptionnelles là pour la fin de l'année, donc nous on leur sert de relais aussi, on a un point de vente à l'usine pour ceux que ça intéresse, venez chercher leurs glaces, elles sont très bonnes. Et donc voilà, c'est la preuve que c'est déjà en cours de prendre l'exemple de cette lutte, de pas baisser la tête et de pas considérer que parce qu'une multinationale professionnelle, une multinationale puissantissime vous décide de vous fermer, eh ben non, il y a des alternatives. On n'est pas obligé d'aller simplement négocier le gros chèque pour accepter de perdre son emploi. On peut faire autrement. On en est la preuve vivante. Et d'autres en sont la preuve, puisque la Fabrique du Sud, maintenant, faut les appeler comme ça, sont un exemple aussi. On espère que plein d'autres prendront le même chemin.
Et du coup, est-ce que vous apporterez votre soutien à des mouvements de résistance? Est-ce que c'est déjà le cas? Est-ce que vous y pensez?
Ah, c'est déjà le cas, même à travers nos frontières. On a été invité dernièrement en Grèce et en Italie sur des colloques qui étaient organisés dans ce sens-là. Et donc, à l'étranger comme en France, bien sûr, on a d'abord lutté sur notre conflit à nous par rapport aux problèmes qui nous concernaient à nous, mais d'un point de vue plus général, il est temps d'aller vers un changement de société radical. On va pas continuer comme ça à laisser des gens se gaver financièrement, nous faire croire qu'il y a la crise alors que eux, il suffit juste de partir d'ici et d'aller jusqu'à la frontière italienne et regarder sur la droite la côte et s'apercevoir que c'est pas forcément la crise pour tout le monde, ou même sur la gauche avec les magnifiques villas, même chose. Donc voilà, la crise, moi j'ai eu 50 ans l'année dernière, j'ai commencé à travailler, on me parlait qu'il y avait déjà la crise, donc il y a toujours la crise pour les capitalistes, sauf qu'en réalité, les bénéfices engendrés, et notamment toujours les créateurs de richesse, ce sont les travailleurs, ils ont jamais été aussi importants qu'aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on prône et ce qu'on a réussi à faire et qu'on veut transformer l'essai, se réapproprier l'outil de travail. Les vrais créateurs de richesse, ce sont nous, les travailleurs. Ce sont pas les actionnaires qui sont créateurs de rien du tout, si ce n'est de s'enrichir sur notre dos. Et donc je pense que l'exemple. Si on a pu se donner cet exemple-là et que ça puisse se concrétiser à d'autres endroits, eh ben tant mieux, et on favorisera et on ira apporter notre soutien à ces endroits-là.
D'accord. Bon, ben on est bien d'accord. Hein. Donc une petite dernière pour la route. Donc quand est-ce qu'on va pouvoir se ruer sur vos thés, vos infusions et les offrir à tous nos amis et nos camarades?
Alors là, c'est une bonne question, c'est qu'on nous pose toujours. Alors déjà, on a reproduit cette année un millésime 2014 du Tilleul des Baronnies. Alors encore en production militante, puisqu'on n'a pas encore choisi le nom de la marque. Donc alors simplement la boîte par rapport à celle qu'on avait fait en 2013, on a mis le logo des 1336 jours de lutte et donc on a 5 ou 6 000 boîtes qui ont été produites en Tilleul des Baronnies cueillette 2014. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif, c'est on s'est fixé comme objectif. J'aime pas le terme, mais je le redis, solder le conflit, ça a été fait en juillet, de se donner jusqu'à la fin de l'année pour régler tous les problèmes administratifs, juridiques, choix stratégiques, commercial, la marque, etc., le nom de la marque, de régler tout ça avant la fin de l'année. Je pense aujourd'hui pouvoir dire qu'on est en passe de le faire, régler tous les autres problèmes qu'il y a encore à régler, notamment les conditions dans lesquelles on occupe les bâtiments et les terrains, qui sont aujourd'hui encore propriété de la CUM. Et donc on doit trouver les solutions avec les collectivités locales, de soit en devenir propriétaire, soit un loyer qui soit suffisamment raisonnable pour nous permettre de démarrer l'activité et pas nous plomber dès le départ, puisque tout le monde a à cœur de partout de nous dire il faut qu'on réussisse, donc il faut créer les conditions que ça réussisse. Donc il y a ça à régler. On pense que je pense pouvoir dire aujourd'hui qu'on va tenir cet objectif-là, de régler ça avant la fin de l'année. Et le deuxième objectif qu'on a fixé, c'est de démarrer l'activité vraiment pure au deuxième trimestre de l'année prochaine. Là, c'est encore trop tôt de savoir si on va réussir à tenir cet objectif-là, mais je pense que ça se fera au plus tard à la fin du premier trimestre et au début du deuxième si vraiment on déborde. Mais on est en bonne poste de tenir ces objectifs-là. Donc début de l'année prochaine, il y aura les produits de Scopti sur le marché.
Ouais, on va attendre avec impatience. Et écoute, Olivier, je te remercie vraiment beaucoup, hein, Hervé aussi, je suppose, hein, d'être venu nous conter cette formidable aventure humaine qui donne de l'espoir pour le futur à tout le monde, je suppose. J'espère qu'après une émission comme celle-là, nous aurons contribué à démontrer qu'un autre monde est possible et que vous aurez peut-être, vous aussi, chers auditeurs, l'envie de rentrer en résistance, chacun à votre niveau, partout où c'est souhaitable. Et c'est pour ça qu'à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Alors, je paraphrase ici le super journal de Picard Fakir, hein, qui est le journal fâché avec tout le monde ou presque, et je vous recommande à tous de l'acheter et de le lire avec attention. On va s'écouter un morceau de Massilia Sound System, un morceau tiré de son dernier album qui fête les 30 ans de Massilia, et ça s'appelle « Pourquoi je morfle ».
C'est toujours le même qui morfle, cousin. faire les justices. Pourquoi je morfle?
Parce que tu ouvres ta gueule.
Pourquoi je morfle?
Ben c'est pas ça qu'ils veulent.
Pourquoi je morfle? Donnez-moi une bonne raison.
C'est normal mon ami, c'est toi qui portes le ballon.
Pourquoi je morfle?
Parce que tu ouvres ta gueule.
Pourquoi je morfle?
Ben c'est pas ça qu'ils veulent.
Pourquoi je morfle? Donnez-moi une bonne raison.
C'est normal cousin, c'est toi qui portes le ballon.
Tu sais ici c'est la France, terre de Providence. De Picardie en Provence, il y avait tout en abondance. Certains n'ont que les miettes et d'autres tout le gâteau. Certains finissent au bourgmestre et d'autres se la joueraient glos. Toi le remind et la gazette qui peine avec les mots. Si tu ne courbes pas la tête, tu pourrais finir KO. Alors si tu vas au combat et que tu as la foi, tu ne reculeras pas, mais tu te diras pourquoi je morfle.
Parce que tu ouvres ta gueule.
Pourquoi je morfle?
Ben c'est pas ça qu'ils veulent.
Pourquoi je morfle? Donnez-moi une bonne raison.
C'est normal mon ami, c'est toi qui portes le ballon.
Pourquoi je morfle?
Parce que tu ouvres ta gueule.
Pourquoi je morfle?
Ben c'est pas ça qu'ils veulent.
Pourquoi je morfle? Donnez-moi une bonne raison.
C'est normal cousin, c'est toi qui portes le ballon.
Dans le monde du travail,
quand on a du travail,
c'est le merguez et la pagaille.
Tu peux dire le why.
Ouvrier ou technicien, secrétaire ou gardien, tout le monde le sait bien, ne s'étonne plus de rien. Ragamuffine, syndicaliste, tu es inscrit sur une liste, je dirais même sur la blacklist.
Je préfère la red list, moi, hein, attendez.
En tout cas, tu es repéré et tu es catalogué, un activiste dangereux pour la société. Coupable, tu seras jugé, tu seras condamné, et tu resteras au placard à te demander.
Pourquoi je morfle?
Parce que tu ouvres ta gueule.
Pourquoi je morfle?
Ben c'est pas ça qu'ils veulent.
Pourquoi je morfle? Donnez-moi une bonne raison.
C'est normal mon ami, c'est toi qui portes le ballon.
Pourquoi je morfle?
Parce que tu ouvres ta gueule.
Pourquoi je morfle?
Ben c'est pas ça qu'ils veulent.
Pourquoi je morfle? Donnez-moi une bonne raison.
C'est normal cousin, c'est toi qui portes le ballon. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal.
Marseille sont plutôt appréciés. Ici ce n'est pas pareil, tout le monde le reconnaît. Quand l'un de nous crie, forcé de se réveiller. Quand le vieux porc s'éveille, on dit bonjour au monde entier. On préfère être à fond avec le porteur de ballon. On vit avec passion, sans cacher nos émotions, sans relâcher notre attention. L'arbitre empêche l'action en nous mettant la pression. Alors on pose la question.
Pourquoi je morfle?
Parce que tu ouvres ta gueule.
Pourquoi je morfle?
Ben c'est pas ça qu'ils veulent.
Pourquoi je morfle? Donnez-moi une bonne raison.
C'est normal mon ami, c'est toi qui portes le ballon.
Pourquoi je morfle?
Parce que tu ouvres ta gueule.
Pourquoi je morfle?
Ben c'est pas ça qu'ils veulent.
Pourquoi je morfle? Donnez-moi une bonne raison.
C'est normal cousin, c'est toi qui portes le ballon.
Alors il ne nous reste plus qu'à écouter une chanson du dernier disque des Zebda qui s'appelle Chibani. Alors le mot Chibani désigne en France les travailleurs immigrés, généralement maghrébins, devenus retraités immigrés. Les Chibani se trouvent souvent, au moment de leur retraite, lésés par rapport aux personnes de nationalité française ayant exercé le même emploi. Qualifiés à leur arrivée de jeunes travailleurs, on estime entre 800 000 et 850 000 les personnes relevant de ce statut de précarité, dont 350 000 ont plus de 65 ans. On leur dédie donc cette chanson.
Ceux qui en font de l'assiette est si petit, qu'on leur dit pas, tu leur dis pas bon appétit. C'est une soupe à la grimace, comme des larmes qu'ils ramassent. C'est une soupe à la grimace, comme des larmes qu'ils ramassent, qu'ils boivent et qu'ils gardent pour eux, vu que tout est dit au fond d'eux. Une cuillère, un tabouret, un rideau rien de coloré. C'est qu'on fait pas dans la couleur quand t'as vécu dans la douleur. Ils ont des souvenirs si flous qu'ils les accrochent avec des clous. Et quand il pleut à verse, toutes les gouttes les traversent. Et quand il pleut à verse, toutes les gouttes les traversent. Ils sont dans les livres d'histoire comme nous dans une passoire. Comme un oiseau perdu au gré du vent qui veut pas de regret. Ils vont et viennent à merci d'un casse-toi ou de merci. Une fille peut quatre filles et meurt sans cérémonie. Ce sont les vieux nos anciens, ce sont les deux réunis, ceux qui nous laissent démunis le soir quand on se réunit. Si qu'on a oublié la compagnie des Chimani. Soit fils ou qu'il soit parent, il meurt une fois par an. À chaque fois qu'une naissance marque d'une croix leur absence. À chaque fois qu'une naissance marque leur absence, ils en écrivent des phrases et ça efface pas l'ardoise. Crois pas qu'ils s'endorment, ils s'éteignent après un petit coup de peine et tranquillement disparaissent dans l'attente d'une caresse. Ce sont les vieux, nos anciens, ce sont les deux réunis, ceux qui nous laissent démunis le soir quand on se réunit. C'est qu'on a oublié la compagnie des Chimani. Ils vivent quand tout est fini et meurent sans cérémonie. Ce sont les vieux, nos anciens, ce sont les deux réunis, ceux qui nous laissent démunis le soir quand on se réunit. C'est qu'on a oublié.
Et pour finir en beauté, voici la traditionnelle devinette de la gueule ouverte. Alors attention, qui a dit « Je refuse cette politique socialisante qui veut que l'on déverse des millions d'euros vers ces quartiers en nous faisant croire que cela va changer la nature de ceux qui y habitent ?»
Alors là, je sais, il n'y a pas de doute possible, c'est Pascal Lamy, l'ancien président socialiste. Oui, c'est vrai, c'est pas une blague. L'ancien donc président socialiste de l'Organisation Mondiale du Commerce, ce bienfaiteur de l'humanité, ce défenseur acharné des faibles et des opprimés, que l'on n'écoute pas assez à mon avis. Pourtant, il a des idées novatrices et hautement originales. Par exemple, pour résorber la plaie du chômage, en France, il propose sans rire d'aller davantage vers la flexibilité et vers les boulots qui ne sont pas forcément payés au SMIC. Un vrai socialiste, je vous dis, mais on aura mal compris le brave homme. Parce que quand il dit pas forcément payer au SMIC, sûrement qu'il entend par là payer très au-dessus. Car comment expliquer autrement que l'ami, humour, quand il dirigeait l'OMC, se soit octroyé une augmentation de salaire de 32%? La compétence, sans doute. Bien moi, je pense que ce genre de compétence, ça sent plutôt mauvais, voyez-vous.
Eh non, Hervé, ce n'est pas Pascal Lamy, mais tu y étais presque. Il s'agit en fait des propos de Stéphane Ravier, l'actuel maire du 7e arrondissement de Marseille. Propos qui ont été rapportés par le journal Le Monde le 29 juin dernier. Ah, chers auditeurs, vivement que Marine Le Pen arrive au pouvoir. Avec le FN, non seulement les journalistes autorisés à participer à leurs conférences de presse ou à leurs réunions publiques seront triés sur le volet et les indésirables inscrits sur liste noire, comme en témoignent les divers incidents survenus ces derniers mois dont furent victimes des journalistes des journaux Le Ravi et Mediapart, ainsi que ceux de Radio Galère. Mais en supplément, on sera sûr de trouver en la personne de Stéphane Ravier un ministre de la ville tout à fait économe. Car voyez-vous, chers auditeurs, aux exorbitantes demandes de réhabilitation des quartiers populaires de Marseille, où grouillent les pauvres, le Ravier nous expose au travers de cette citation sa théorie socio-économique matinée de livres de la jungle. Et oui, que voulez-vous, c'est la nature. On n'y peut rien. Le pauvre est vil et inconséquent, sale et voleur, un feignant, un profiteur, un malfaisant. De la vermine, quoi. Le cafard vautré dans l'égout ne se transformera jamais en délicat papillon bleu-blanc-rouge, et c'est tant mieux.
Eh bien ça, c'est une sacrée magistrale leçon de politique, donc il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir.
Salut Hervé.
Salut.
C'était La Gueule Ouverte, le rendez-vous mensuel d'Attaque Marseille. On se retrouve le mois prochain, le deuxième jeudi du mois, de 15h à 15h30 sur Radio Galère. Allez, zou, bouleg, casse-toi, bye, bye.
Le grain de sable. Pensée globale. Une émission proposée par l'association Attaque-Rhône. Agir local. Le grain de sable.